Audiolib présente La Fontaine, une école buissonnière, d'Éric Orsenna. Lu par l'auteur et Dominique Pinon. Pour Marc Fumaroli, avec mon admiration intimidée. Chapitre 1. Un petit Jean naît à Château-Thierry.
Tous ceux qui ne sont attirés que par le bling et par les bulles ne verront dans Château-Thierry, aujourd'hui 14 189 habitants, que la porte de la Champagne. Les autres, ceux qui savent le prix de la flânerie, goûteront fort ce méandre de la Marne, cet étagement de collines coiffées de forêts. Sous cette paix trompeuse de la géographie, ils entendront vite, pour peu qu'ils dressent un peu l'oreille, les bruits de l'histoire. La rivière à cet endroit devait se franchir à gué. Puisque des hommes passent, il faut bien les nourrir, les héberger, les protéger et de temps en temps les rançonner. Ainsi, dès l'époque romaine, naît une ville. Plus tard, sur la hauteur principale, un château s'élèvera, où de siècles en siècles se succéderont des puissants. D'azur au château de cinq tours couvertes d'argent, ajourées et maçonnées de sable accompagnées de trois fleurs de lys d'or, le blason de la ville incite à rêver de chevalerie et de table ronde. La population vit, et vit bien, d'agriculture et de commerce. On ne sait pourquoi ni comment une forte communauté juive vient s'installer. Au XIIIe siècle, elle crée une école rabbinique qui devient vite célèbre. Samuel d'Evreux en est la figure la plus éclatante. Figurez-vous qu'on venait de partout, et jusque de Tolède, pour entendre ses interprétations du Talmud. En 1285, avec le comté de Champagne, Château-Thierry rejoint le domaine royal. Durant la guerre de Cent Ans, le parti anglais l'occupe et la dévaste. Qu'à Dieu grâce soit rendue, Jeanne d'Arc la libère en 1429. Maintenant, brûlons les étapes. Passons en 1621. En cette année, la Chine s'est placée sous la tutelle du coq. Un peu partout dans le monde, les hommes se battent, comme d'habitude. Les Mongols contre les Tibétains, les Bataves contre les Espagnols, les Polonais contre les Ottomans, les Suédois contre les Baltes, entre elles les tribus tout autour de Tombouctou. Les Français n'échappent pas à cette manie de la guerre perpétuelle, sauf qu'ils y ont ajouté un piment de leur crue, ils n'aiment rien tant que se tuer entre eux. Malgré son jeune âge, il n'a que 20 ans, Louis XIII, le roi, n'est pas le moins ardent. Il lance ses armées vers le sud de son pays, avec mission d'y écraser une bonne fois pour toutes ce qu'on appelle les protestants. Pendant ce temps, les marchands hollandais prospèrent. Ils viennent de créer une compagnie commerciale dite des Indes occidentales. Sur les côtes atlantiques, elle ouvre différents comptoirs, dont la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New York. 1621. Pour ce qui concerne le climat, apprenez que l'hiver fut si rude en Provence cette année-là que les oliviers y gelèrent. Le printemps finit par venir, puis commença l'été. C'est alors qu'un beau jour, le 8e de juillet, un petit Jean choisit de naître. Il naît à Château-Thierry, dans la rue des Cordeliers. Paris n'est pas loin, 100 km vers l'est. Cette distance, petite mais tout de même, aura son importance.
Chapitre 2. La Fontaine. Mais n'oublions pas Pidou.
Le père, quand ce jour il faut présumer heureux, se nomme Charles de La Fontaine. Le petit Jean est son premier enfant. Il est baptisé en l'église Saint-Crespin, lequel est patron des savetiers. Chez les La Fontaine, on est de bourgeoisie récente, à peine 4 générations, enrichie dans le commerce et notamment celui du drap. Ce début de fortune a permis au grand-père d'acquérir une charge, celle de maître des eaux et forêts. À ce titre, il surveille et contrôle un territoire à lui confié par un seigneur ou par le roi. Au fil du temps, les La Fontaine ont acheté des terres. Ils tirent de leurs fermes l'essentiel de leurs revenus, une charge et des fermes. On n'est pas encore tout à fait noble, mais on s'en approche. Encore un effort, La Fontaine. La mère, prénommée Françoise, mais d'abord née Pidou, éveille plus notre intérêt. Dès le XIIIe siècle, cette famille n'a cessé d'occuper les plus hautes fonctions. Banquier de princes, évêque, prévôt des marchands. Un Pidou fut seigneur de Chaillot, un autre liquidateur des biens des Templiers. Habitant Paris, mais chassé par la guerre de Cent Ans, il s'enfuit vers Poitiers où il s'installe. Et de mariage en mariage, il continue de tisser des liens toujours utiles. On trouve des Pidou partout. L'un est beau-frère du cardinal de Richelieu, un autre parent de Bossuet, une autre encore